Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, c'est l'heure du podcast des maternelles où promis, on ne parlera pas des élections présidentielles. Le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions, aujourd'hui le sujet, mon enfant est atteint du syndrome Gilles de la Tourette. Alors Gilles de la Tourette, quand on entend ce mot, la plupart d'entre nous, on pense, vous savez, à ces grandes émissions de télé où on voit des cas extrêmes d'enfants, d'adultes, qui hurle des insultes du matin au soir. Eh bien, Gilles de la Tourette, c'est ça aussi, mais c'est une toute petite part. C'est bien plus complexe comme sujet que cette caricature montrée trop souvent à la télévision. Et donc, on va parler de ça ce matin avec Adèle. Adèle qui est la maman de Luca. Luca qui a 9 ans, qui est atteint du syndrome Gilles de la Tourette. Et puis, nous serons juste après avec un neurologue qui nous aidera à décrypter tout ça. C'est parti!
Le syndrome de Gilles de la Tourette toucherait entre 60 000 et 100 000 enfants dans notre pays. Bonjour Adèle.
Bonjour.
Merci d'être venue sur ce plateau. Vous êtes la maman de Luca qui a 9 ans et de Eléa qui a 7 ans. Et après des années d'errance médicale, d'errance de diagnostic, enfin on vous a posé un diagnostic sur les troubles de Luca, le diagnostic du syndrome de Gilles de la Tourette. Mais c'était il y a seulement un an, hein, donc oui. Ça fait un an que vous composez, je dirais, avec cette maladie. Dès la petite enfance, Luca, il avait de nombreuses difficultés, je dirais déjà, pour s'endormir. C'est-à-dire que vous avez connu avec votre mari vraiment des nuits compliquées, ultra raccourcies. Et puis, vers 2-3 ans, alors c'est toujours compliqué parce que c'est la période classique, hein, mais il a commencé à faire des colères qui était un peu plus forte, ouais, que le fameux terrible tout, quoi.
Ouais, complètement. En fait, on appelle ça des crises de rage. Mm-hmm. Ça va au-delà des simples crises de colère. Généralement, ça partait de pas grand-chose. Juste, ouais, si on lui demandait d'arrêter son activité pour passer à table, par exemple. Et ça partait très vite. Ça prenait des proportions assez énormes. Ça faisait petite tornade. Donc, si on se trouvait sur le passage, on se prenait des coups. Il y a des objets qui volent. Voilà.
Ah oui, donc il était violent avec les, ouais, autres, violent avec lui-même, quoi.
Ça peut partir assez vite. Donc, on avait consulté déjà à l'époque une psychologue qui nous avait prescrit une petite bouteille de retour au calme. Sauf, mm-hmm, que chez nous, ça n'a pas du tout fonctionné. La bouteille, elle volait dans le salon.
Ouais.
Donc, ce qu'on faisait, nous, c'est le contenir dans nos bras pour ne pas qu'il se fasse mal et puis aussi pour nous protéger, en attendant que la crise redescende, parce que les crises...
Et voilà, et Dieu sait que c'est déchirant de vivre ce genre de scène, parce qu'on sent aussi que son enfant souffre, hein. C'est pas des bons, ouais, moments pour lui. Est-ce que Lucas se comportait de la même manière à l'école ?
Non, pas du tout. Les crises, elles sont restées dans le cercle familial. Mmh. À l'école, ça se passait assez bien. Après, en moyenne section de maternelle, il a commencé à avoir des petits troubles de l'attention, donc ça agaçait fortement son instituteur de l'époque. Et je m'en étais rendu compte quand j'avais donné un coup de main pour de la pâtisserie en classe. Et c'est vrai que Luca ne pouvait pas tenir en place très longtemps. Mmh. Donc souvent, il se levait, il faisait une petite roulade, il revenait s'asseoir. Donc
son instituteur l'avait un peu pris en grippe.
Oui. Ouais,
vous l'avez emmené chez le psychologue à ce moment-là ?
Oui, on l'a emmené voir un psychologue et elle m'a dit, oh, mais votre fils est simplement au potentiel et voilà, ça résout tout, fin du problème.
Oui, c'est ça. Et puis après, il y a eu l'apparence de tics quand même qui vous ont, ouais, un peu interpellé. Alors c'était à quel moment ça, à quel âge ?
Les tics, ça a commencé au niveau du grande section de maternelle. Sa maîtresse venait m'en parler après les cours en me disant, il renifle, est-ce qu'il est enrhumé ? Je disais, bah non, c'est juste un tic, il ne faut pas trop lui faire remarquer parce que ça va l'exacerber. Mmh. Et effectivement, ça se passait. Ce qui est, d'accord, très compliqué avec les tics, c'est par vague.
Et puis après, vers ses 6 ans, les tics ont redoublé d'intensité. C'était vraiment devenu très, très fort. Comment ça se manifestait ?
Bah, les tics peuvent être par moments très intenses où il va vraiment forcer sur des membres. Et, mmh, il peut même en pleurer parce que ça lui fait mal. Et dans ce cas-là, bah, c'est très difficile pour le parent parce qu'on se sent vraiment, on ne sait plus quoi faire pour l'aider.
Oui, ouais, c'est ça. Et là, il faut dire aussi qu'à la maison, quand il a commencé à entrer en primaire, il y a, ouais, les devoirs qui arrivent. Et donc, exactement, ça, c'est encore des moments supplémentaires très difficiles à gérer, non ?
Bah, disons que ça s'ajoute au trouble de l'attention, qui n'est déjà pas évident. Et comme il voit les devoirs comme une corvée, il n'a pas envie de les faire. Mmh. Et donc là, il y a les tics qui reviennent un peu en force. Et puis, ouais, c'est compliqué d'arriver au bout de ses devoirs.
Alors, on va regarder d'ailleurs un court extrait d'une séance de devoir avec Luca que vous nous avez confiée. Ouais. C'était quand il avait 8 ans, donc en CE2, c'était il n'y a pas si longtemps, ouais. C'était l'année dernière, ouais. Du coup. On regarde.
Multiplication après.
De quoi ?
Fais doucement, Lucas. Doucement. Hein ?
Je me tape.
Lucas, on se concentre ? On en était où là ?
J'arrive pas à me concentrer.
Un pauvre chou. Et puis une maman qui a une patience quand même d'enfer, parce que ça faisait des années et des années que quand même, entre les nuits raccourcies, l'angoisse aussi, j'imagine, ça ne devait pas être facile. Vous avez consulté des spécialistes pour essayer d'avoir des réponses. Qu'est-ce que vous vous disiez, vous, à ce moment-là ? Vous sentiez qu'il y avait un truc qui ne fonctionnait pas bien, quoi ?
Depuis tout petit, c'est vrai que les troubles de sommeil, déjà, je trouvais que c'était assez fort, parce que bercer un enfant jusqu'à 2h du matin, je me disais, bon... Donc on a tout de suite vu le pédiatre, mais qui nous disait, mais une fois qu'il s'est endormi, il dort bien la nuit, donc il n'y a pas de problème pour lui. Après, on a vu beaucoup de psychologues, mais Luca, n'ayant rien à confier, ça n'avançait pas. L'hypnotiseuse nous a aidés, par contre, pour son problème d'énurésie qu'il avait jusqu'à 8 ans. On a vu aussi, on a fait du chromosome.
Ostéo, j'imagine.
Ostéopathe, micro-kiné.
Jusqu'à aller voir une chamane.
Ça a beaucoup fait rire, Luca.
Oui, mais c'est déjà pas mal. Non, mais cela dit, on vous comprend tellement. On ne sait plus, donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et donc on essaye d'avoir des réponses, c'est bien normal. Et puis parfois, ça peut pas. Hein. Il peut y avoir des miracles, c'est bien. Alors, parallèlement à l'école, il avait de bons résultats. Oui. Là, on a vu les devoirs, mais est-ce que dans l'ensemble, ça allait quand même ?
Malgré ses troubles, Luca est quand même intelligent et il capte assez vite. Donc, il n'a pas de retard d'apprentissage à ce jour.
Et socialement, il a des copains ?
Il a toujours eu des copains. Il est hyper sociable. Il a un contact très facile, beaucoup d'humour. Et donc, ça passe hyper bien à l'extérieur.
Bon, ça, c'est déjà quand même très, très important. Alors, vers les 7 ans de Luca, en 2020, donc c'était avant les images qu'on vient de voir, il y a eu le début de la pandémie. Ouais. Et là, la situation, elle a carrément dégénéré dans votre famille. Qu'est-ce qui s'est passé, le fait qu'il soit à la maison ?
L'enfermement et le fait de faire l'école à la maison. Moi, qui essayais de télétravailler, j'ai tenu 2 jours. Ouais. C'était juste pas possible. Il y avait beaucoup, je pense, beaucoup de stress pour lui. Il me disait aussi, t'es pas ma maîtresse, c'est donc les cahiers volaient un peu dans tous les sens. Et non, c'était pas faisable chez nous.
Et puis, mais même il avait des idées noires, et vous sentiez qu'il commençait un peu à vraiment à s'enfoncer un peu, non ?
Alors ça, les pensées noires, je dirais que c'est un peu comme les tics, ça vient par vagues. Il y a pas un moment où il va se confier, il va me dire, je me sens pas bien du tout. L'estime de soi est assez difficile quand on a le syndrome de Gilles de la Tourette. Parce qu'on n'arrive pas à gérer ses tics, on n'arrive pas bien à gérer ses crises de colère, et du coup, ça porte beaucoup sur l'estime.
Et puis, en fait, il y a eu une immense crise, en fait, quand il avait eu 8 ans. C'était en Bretagne. Vous étiez en vacances. Oui. Et là, vous avez dit, il faut que je fasse un bilan neurologique, c'est plus possible.
Ce qui a changé, c'est que cette fois, la crise de rage a eu lieu avec des personnes un peu extérieures. C'était plus que nous quatre, la famille, c'était un peu le cercle familial élargi. Et c'est vrai qu'avec un regard extérieur, on s'est dit, tiens, mais il y a peut-être un problème neurologique. Et ce qui pouvait aussi expliquer que Luca n'avait pas répondu à tout ce qu'on avait pu essayer par avant. C'était pas bête. Donc, en revenant à la maison, j'ai cherché pour faire un bilan neurologique, qui sont très chers. J'ai trouvé quand même une association sur Paris qui faisait à moindre coût, 500 euros, et en partie remboursée par la mutuelle.
Lui, il était demandeur, Luca. Vous sentiez qu'il était suffisamment en souffrance pour vous dire « aide-moi ».
Nous, on a vraiment souffert des crises de rage où il culpabilisait énormément après chaque crise. Et oui, souvent, il me disait « aide-moi, maman, fais quelque chose, aide-moi ». Et même, il me disputait un peu « tu fais rien ». Bon, bien sûr, c'est pas vrai, mais quand il était mal, c'est ce qu'il pouvait être amené à penser.
Qu'est-ce qu'il a donné ce bilan alors ?
Et donc ce bilan, il a été ensuite transféré à une psychiatre qu'on nous a recommandée sur Paris. Mmh. Et là, dès la première séance, ça a été très rapide. Elle m'a dit, mais votre fils, madame, a le syndrome de Gilles de la Tourette, comme si c'était une évidence. Et moi, je me suis dit dans ma tête, mais il ne dit pas de gros mots, parce qu'on a bien clichés.
On avait le cliché des émissions de Jean-Luc Delarue, où tout à coup, on pouvait avoir quelqu'un qui souffrait du syndrome de Gilles de la Tourette et qui vous insultait comme ça d'un coup.
En fait, la coprolalie, elle est assez rare, finalement.
Mmh. Oui, c'est ça. Donc oui, c'est vraiment une exception, il faut bien le dire, parce qu'il y a tellement de clichés. Ouais. Est-ce qu'il y a des symptômes, des syndromes associés, parce qu'on voit qu'il n'arrive pas à se concentrer?
Oui. Alors après, ça va être différent pour chacun. Après, de ce que moi, je connais via Luca, il y a le trouble de l'attention, le trouble de l'opposition, les troubles du sommeil, l'anxiété, une très forte anxiété.
C'est ça.
Mais le cœur de la maladie reste bien les tics vocaux et moteurs associés depuis plus d'un an.
Comment vous avez réagi, vous, quand vous avez eu ce diagnostic? Est-ce que c'était quand même un soulagement, même si vous aviez tous ces clichés
auxquels j'imagine penser? Je dirais que c'est à double tranchant. On est soulagé d'avoir enfin le bon diagnostic. Donc on se dit qu'on va pouvoir avancer et l'aider au mieux. Et en même temps, maintenant, on se dit qu'il faut faire avec et il faut voir comment on peut avancer avec cette maladie-là.
Voilà, une maladie, il faut le dire, qui ne se guérit pas aussi. C'est difficile pour une maman de se dire ça.
Après, dans la plupart des cas, les symptômes s'atténuent à l'âge adulte. Donc, on a quand même de l'espoir. Et puis maintenant, il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place, comme les thérapies cognitivo-comportementales.
Justement, on va parler des traitements. Ouais. Mais est-ce que vous lui avez déjà expliqué quand vous avez eu le diagnostic?
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous avez pu en parler à votre entourage, à votre famille?
Moi, je suis vraiment pure qu'on communique. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour qu'il y ait moins de clichés sur cette maladie, que ce soit plus facile à vivre pour Luca. Parce que sans cesse, il est en train d'expliquer « c'est normal, mais tic, j'ai le syndrome, je ne peux pas faire autrement ». C'est un peu épuisant pour lui au quotidien.
Bien sûr. Et après, il faudrait banaliser un peu la maladie et casser un peu les clichés qui y sont liés.
Et en France, on est un peu en retard comparé à nos voisins canadiens, québécois surtout. Mm-hmm. Et c'est là où j'ai pu trouver des petits livres qui expliquaient assez bien le syndrome. Donc ça coûte assez cher, il faut les faire apporter. Mais ça peut aider pour les petits, pour mieux comprendre ce qui se passe.
Ça a dû le soulager aussi, lui, quand même, de savoir que ça s'expliquait, ces crises.
Bon, au moins, il peut en parler. Et il m'a quand même dit, mais maman, j'ai pas de chance, c'est une maladie rare, tu me dis, il faut que ça tombe sur moi.
Ouais. Quel traitement il a alors, Luca, en ce moment?
Alors en ce moment, il a un traitement qui l'aide un peu à réguler ses tics et on a un peu maître sur la dose à lui donner en fonction de l'intensité. On a mis en place un plan d'accompagnement personnalisé pour l'école qui permet d'avoir quelques ajustements. Au niveau des troubles du sommeil, maintenant, il prend de la mélatonine et ça a été hyper efficace. Ça a vraiment aidé à retrouver un rythme de sommeil normal. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le trouble de l'attention, on a essayé des petits médicaments, mais sur Luca, ce n'était pas vraiment efficace et ça lui donnait d'autres douleurs, donc on a préféré arrêter.
Vous avez réussi à retrouver un équilibre familial aujourd'hui?
Maintenant,
c'est plus cool?
Oui, avec mon mari, on s'est vraiment rapprochés, on agit de concert. Et je trouve qu'on forme une bonne équipe et maintenant qu'on sait ce qu'il a, on met en place des stratégies. Par exemple, pour les crises de rage, on sent quand ça monte et pendant l'escalade, avant qu'il atteigne le sommet et qu'on ne puisse plus communiquer, on va avec lui dans sa chambre, il dit « là, t'es en train de partir ». On s'isole et on attend que ça redescende.
Merci d'être avec nous, docteur Andreas Hartmann. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes neurologue, responsable du centre de référence du syndrome Gilles de la Tourette à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. On l'a vu, le syndrome de Gilles de la Tourette peut être associé à d'autres troubles. On l'a vu avec le témoignage d'Adèle. J'aurais vraiment qu'on sorte des clichés de la maladie aujourd'hui, parce qu'évidemment, certains, certains témoignages un petit peu extrêmes circulent à la télé depuis 20 ans. C'est quoi les symptômes? Voilà, qu'on soit très clair.
Le syndrome Gilles de la Tourette, c'est juste l'association en fait de tics moteurs et vocaux. Voilà, c'est la définition la plus simple.
Mais tout le monde ne profère pas des insultes dans le métro?
Clairement pas, non. C'est plutôt rare, on va dire, ce symptôme. On en a parlé, la fameuse coprolalie, qui par ailleurs, quand elle se manifeste, ne ressemble pas forcément à ce qu'on voit sur YouTube. Ce n'est pas forcément des gens qui vous insultent, c'est plutôt des gros mots qui se glissent dans le discours, on va dire, mais de façon plutôt discrète.
Et sinon, c'est quel type de tic, alors?
Alors, les tics classiques, c'est tous les tics qui touchent, on va dire, la sphère faciale, donc les clignements d'yeux, les mouvements du visage, de la bouche, mouvements du cou, des épaules, raclement de gorge, toussotement, reniflement. Donc voilà, ça, c'est vraiment les tics les plus typiques et qui surviennent, je dirais, dans pratiquement tous les cas. Mais après, ça peut aussi être un peu plus riche que ça,
Et il y a des syndromes associés, genre, comme on a vu, syndrome de l'attention qui découle de la maladie?
Non.
Ah,
En fait, à titre personnel, moi j'aime bien justement séparer un peu les diagnostics, c'est-à-dire en fait le syndrome de la Tourette fait partie des troubles dits du neurodéveloppement, au même titre que le TDAH, donc le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, les troubles des apprentissages, donc toutes les 10, les troubles du spectre autistique, les troubles du comportement. Et je trouve que c'est important de faire cette différence parce qu'en fait, la prise en charge ou les prises en charge ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que je ne vais pas traiter l'éthique de la même façon que je vais traiter un trouble de l'écriture ou de la lecture ou un trouble déficitaire de l'attention. Et ce qui est important aussi, c'est que souvent, l'éthique, en fait, sont plutôt au second plan. C'est-à-dire, en fait, c'est la porte d'entrée qui nous permet de poser le diagnostic de syndrome de la Tourette. Mais ce qui prime, justement, c'est le comportement, les troubles du sommeil, l'anxiété. Donc voilà, je pense que c'est important de prendre les symptômes et les diagnostics d'une certaine façon, un par un.
On a reçu beaucoup de questions pour vous ce matin, dont une maman concernée par ce problème. Elle s'appelle Stéphanie. Regardez sa question en vidéo.
Bonjour, je suis la maman d'un adolescent de 14 ans qui a été diagnostiqué à l'âge de 10 ans. J'avais une question sur les comorbidités qui peuvent être associées au syndrome G de la Tourette, notamment du côté des troubles autistiques ou de l'anxiété, voire des troubles de l'apprentissage. Je voulais savoir s'il y avait des études précises sur cette question des comorbidités et éventuellement des outils pour nous aider, nous parents, à y voir un peu plus clair. Merci.
D'accord. Alors, c'est une question assez vaste, en fait. Donc, oui, il y a beaucoup d'études qui ont étudié les comorbidités dans le syndrome de la Tourette. Et on connaît à peu près les chiffres. Ce qu'on peut dire, c'est que quand même 90% des personnes qui sont atteintes du syndrome de la Tourette ont des comorbidités. Donc, c'est vrai que c'est relativement rare d'avoir des personnes qui n'en ont absolument pas, qui n'ont que des tics. C'est ce que nous, on appelle un syndrome de la Tourette pur. Après, pour les répartitions exactes, c'est vrai que les études épidémiologiques ne sont pas ultra précises non plus. Par exemple, dans les troubles du spectre autistique, on estime que 10-15% des personnes atteintes du syndrome de la Tourette ont également, on va dire, des traits autistiques. Là aussi, il faut être prudent. Idem pour les troubles des apprentissages. De toute façon, ce qu'on fait en consultation, c'est que généralement, justement, on passe tout ça en revue, donc on pose quand même des questions assez précises, voilà, problème d'écriture, de lecture, de calcul, dans les interactions sociales, comportement, sommeil, etc. Donc il y a toute une checklist, on va dire, qu'on déroule. Et dès qu'on a une suspicion qu'il y a un problème, bah, effectivement, dans ces cas-là, on demande des bilans plus approfondis pour creuser.
Manon vous demande quels sont les traitements ou les prises en charge possibles pour aider un enfant qui a des tics sévères.
Alors, les tics se traitent de deux manières, ou trois peut-être, mais on va dire deux dans les cas les plus généraux. C'est d'une part les médicaments. Donc, il y a des médicaments pour traiter les tics. Et il y a ce qu'on appelle des thérapies comportementales ou cognitivo-comportementales, en cours TCC. Alors, les deux peuvent aussi se combiner. On n'a pas forcément besoin de faire l'un ou l'autre. Voilà, chaque approche a ses avantages et ses désavantages, mais fonctionne, hein, faut quand même le dire. Après, on a aussi des choses un peu plus particulières, on va dire, pour les tics locaux. On peut aussi injecter de la toxine botulique. Il y a des approches chirurgicales, mais qui sont vraiment très, très marginales pour les cas très, très sévères.
Et quand c'est plus léger, je ne sais pas, la sophrologie, la méditation, ça ne peut pas...
Alors, c'est un peu à double tranchant. En fait, ce qui bloque le mieux les tics, c'est l'attention. C'est-à-dire, quand vous êtes concentré sur quelque chose, généralement, à ce moment-là, vous avez le moins de tics. Et d'ailleurs, justement, vous avez plein de gens, des acteurs, des musiciens. Voilà, quand ils sont sur scène, ils ne tiquent pas parce qu'ils sont concentrés sur ce qu'ils font.
Vous connaissez le cas Vincent Lindon, par exemple.
Par exemple, ouais. Voilà. Ou Billy Eilish, qui souffre aussi d'un syndrome de la Tourette. Bon. Quand on se relâche, quand on se détend, souvent, ça peut aussi faire ressortir les tics. Et justement, assez paradoxalement, j'ai des patients qui me disent, pour moi, la pire période en termes de tics, c'est les vacances quand je suis à la plage, parce que c'est à ce moment-là que je me laisse aller. Donc, ce n'est pas pour autant que la sophrologie ou la relaxation, le yoga, le shiatsu, enfin, il y a beaucoup de techniques.
Et chacun va trouver surtout sa propre recette, non ?
Voilà, ça peut quand même être bénéfique aussi pour le bien-être en général, indépendamment des tics. Mais voilà, faire le pari que ça va forcément réduire les tics, ça par contre, ce n'est pas toujours le cas.
David vous dit, notre enfant de 7 ans a des tics qui sont souvent très douloureux. Comment établit-on le diagnostic, Gilles de la Tourette ?
Alors, c'est un diagnostic purement clinique, donc pas d'IRM, pas d'EEG, pas de bilan extrêmement compliqué. On essaie de comprendre combien de tics il y a. Donc, il faut quand même des tics multiples, donc au moins 2 tics moteurs, 1 tic vocal, sur une durée de plus d'1 an.
D'accord.
Donc, c'est basé sur l'interrogatoire, finalement. Et il faut faire confiance aux parents ou à la personne, puisque, en fait, souvent, en consultation, en fait, les tics ne sont pas très visibles. Les personnes sont dans la retenue, sont justement, surtout quand ils ne vous connaissent pas. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'on voit en consultation qui est le reflet de ce qui se passe le soir à la maison. Moi, généralement, je multiplie par 5 ou 10 et puis j'ai un peu une idée de ce qui se passe en milieu familial. Mais voilà, dès qu'il y a donc 2 tics moteurs, 1 tic vocal sur une durée de plus d'1 an, alors pas forcément en permanence non plus, c'est vraiment la période globale, à ce moment-là, on peut établir le diagnostic.
Léa vous dit, j'ai de nombreux tics moteurs qui persistent depuis l'enfance, malgré une légère réduction de leur intensité, mais jamais de tics vocaux. Est-ce possible que ce soit ce syndrome ?
Alors, au stricto sensu, on ne l'appellerait pas un syndrome de la Tourette, on parlerait de tics moteurs chroniques. Voilà, ça existe aussi, sans tics vocaux. Mais voilà, au fond, ce qui importe, c'est quand même la chronicité et la gêne. Donc, si elle est gênée, elle peut venir consulter,
bien sûr. Ça vaut le coup de consulter, et ce ne sera sans doute pas un Gilles de la Tourette, mais...
Voilà, on l'appellera différemment, mais voilà.
Mais au final, ça ressemble.
Ça ressemble.
Barbara vous demande si le syndrome Gilles de la Tourette peut-il survenir à l'âge de 17 ans.
Pas vraiment, non.
Non.
En fait, généralement, les tics commencent quand même dans l'enfance, entre 5 et 7 ans. C'est assez rare déjà de voir des tics apparaître au-delà de 10 ans.
D'accord.
Donc 17 ans, voilà. Selon les critères officiels, c'est possible, mais en pratique, c'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment.
Et alors, pour rassurer les parents, il y a des périodes aussi où les enfants peuvent avoir des tics qui passent et qui sont, de ce fait, pas inquiétants.
Tout à fait, oui, tout à fait.
Qu'on soit très clair sur les tics, parce que...
Oui, bien sûr. Alors, justement, aussi, pour rebondir sur la question des 17 ans, peut-être qu'il y a quand même eu des tics discrets avant qu'on n'a pas vu. Hein. Souvent, quand on creuse un peu, finalement, on se dit, il y a quand même eu quelque chose, mais voilà, le tout premier tic à 17 ans, ça me paraît tardif.
D'accord.
Et après, comme vous dites, ça fluctue et ça évolue pas toujours de façon linéaire.
Est-ce qu'on n'a pas tous, plus ou moins, un moment dans notre vie des tics?
Non.
Vous parliez du raclement de gorge, par exemple, ou du... Non.
Non.
Il y a
des gens qui ont... Moi, je crois que j'ai pas de tics, pour le coup. J'ai beaucoup de problèmes.
Non, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'en français, on parle souvent de tics nerveux, d'accord,
ouais.
Mais en neurologie, c'est pas ce qu'on entendait par un tic, par exemple la mèche ou tapoter des doigts, voilà. Ça, c'est pas
la mèche, ça je l'ai, moi, par exemple.
Voilà.
Ça, c'est pas un tic.
Mais ça, c'est pour
quelqu'un qui aurait tendance, effectivement,
non,
à se...
Non. En neurologie, on dirait plutôt ça, c'est un maniérisme, par exemple. Dans le tic, il y a vraiment un élément compulsif. On a besoin de le faire et de manière répétée pour se soulager. Et le raclement de gorge ou le reniflement, c'est bien sûr des choses qu'on fait tous, hein, c'est des choses normales. Mais quand quelqu'un a un tic, il le fait de façon répétée, sans vraiment pouvoir s'arrêter. Donc c'est assez différent.
Ce qui est très dur pour les parents, moi mon fils a eu des tics à un moment, c'est de pas lui dire « arrête ».
Voilà. Ouais, justement,
c'est vraiment quelque chose de difficile, quoi, parce qu'au début, on ne sait pas que c'est quelque chose qu'il ne peut pas contrôler.
Et comment est-ce qu'il faut réagir?
Alors, justement, bien sûr, c'est pas du tout un reproche parce que je comprends que en premier lieu on dit arrête, mais c'est plutôt contre-productif, ça fait plutôt monter la mayonnaise parce que c'est anxiogène pour l'enfant.
Ça attire l'attention sur ça en plus.
Oui, voilà. Bah, le tic, c'est un peu comme l'envie de se gratter ou d'éternuer. Imaginez que je vous dise non, n'éternue pas. Voilà, c'est impossible et ça rend les choses encore plus difficiles. Idéalement, il faut ignorer en fait les tics des autres. Alors, je sais que c'est facile à dire et très difficile à faire, mais quand vous posez la question à des personnes qui ont des tics, la plupart vous diront « moi, je préfère qu'on m'ignore ».
Oui, c'est ça.
Annick vous demande « qu'est-ce que vous pensez du neurofeedback ?»
Alors, le neurofeedback, c'est assez populaire, notamment dans le traitement.
Expliquez ce que c'est, le neurofeedback, qu'on comprenne, c'est compliqué.
Alors, c'est une méthode qui combine, on va dire, une approche, on va dire, plutôt comportementale avec un enregistrement du fonctionnement cérébral. C'est quelque chose qui a pris un certain poids, d'après ce que je sais, dans le traitement des troubles de l'attention et qui a aussi été proposé pour les tics. Alors, j'ai des patients qui disent en profiter, hein, qui en ont fait, mais je dois dire qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'études, on va dire, de qualité, donc ce que nous, on appelle des études contrôlées, randomisées, en double aveugle, voilà, qui montrent vraiment que le neurofeedback est plus efficace, on va dire, qu'un groupe contrôle, donc placebo. Donc voilà, pour ceux qui ont envie d'essayer, je ne les décourage bien évidemment pas. Mais contrairement au TCC, où il y a vraiment eu ce type d'études, voilà, je ne peux pas non plus faire une recommandation, on va dire, très très claire.
Ça reste empirique, quoi.
Ça reste empirique, exactement. Oui.
Maëlle vous demande quelles sont les causes du syndrome et est-ce que c'est génétique ?
Alors, c'est déjà un peu la réponse est dans la question, on va dire, puisque effectivement, il y a sans doute un aspect génétique dans l'éthique ou le syndrome de la Tourette, mais ça, c'est vrai pour 99,9% des maladies aujourd'hui. Oui, hein, il y a très peu de troubles, on va dire, ou de maladies où la génétique ne joue aucun rôle. Mais ce n'est pas une maladie, on va dire, héréditaire au sens classique du terme, c'est-à-dire ce qu'on nous on appelle des maladies monogéniques, où il y a un gène, une maladie qui se déclare. C'est probablement une transmission qui est extrêmement complexe, avec des dizaines ou des centaines de gènes impliqués.
Mmh. Est-ce que, par exemple, un enfant qui a un parent qui a des tiques, donc il a plus de chances d'en avoir ?
Oui, voilà. Alors, on peut parler de chance ou de risque, mais effectivement, il a plus.
Elle voit le verre à moitié plein.
Voilà.
Oui, voilà, exactement. Non, mais c'est une belle expression. Non. Alors, effectivement, c'est vrai que s'il y a une histoire familiale positive, le risque ou la chance d'avoir des tiques est plus élevé. Ça, c'est vrai. Et ça, on le sait depuis longtemps. Mais encore une fois, ce n'est pas une transmission linéaire.
Pas de fatalité.
Il n'y a pas de fatalité. Donc ça, c'est important aussi pour les personnes qui ont eux-mêmes des tiques ou un Tourette, quand ils veulent avoir des enfants. Bon, le risque de leurs enfants d'avoir des tiques est un peu plus élevé que la normale, mais ce n'est pas du tout une fatalité, clairement pas.
Ma fille de 15 ans a commencé à développer des tiques à force de regarder TikTok. Et une influenceuse qui en a aussi. Est-ce lié au syndrome Gilles de la Tourette ? Et vous parliez tout à l'heure de Billie Eilish, qui du coup a Gilles de la Tourette aussi. Est-ce que des
influenceurs... alors Billie Eilish, à mon avis, elle a un syndrome Gilles de la Tourette qu'on va appeler classique ou typique. Voilà, elle a des tics depuis son enfance. Hein, de la façon dont elle en parle, ça me laisse très peu de doutes sur le diagnostic. Là, ce que vous décrivez, c'est un phénomène nouveau. Et d'ailleurs, les tics qui sont apparus à 17 ans, ça me fait plutôt penser à ça. C'est-à-dire que depuis le début de la pandémie... Il y a beaucoup de, alors surtout des jeunes femmes, mais aussi des hommes, hein, ça dépend un peu des pays, qui ont développé des tics, vraisemblablement, à force effectivement de regarder des vidéos de personnes qui ont des tics, un Tourette, qui disent avoir un Tourette. Alors, ce n'est pas tout à fait clair. Il y a des chaînes entières sur YouTube et sur TikTok dédiées à ce sujet, avec des influenceurs qui ont des millions de followers. Alors, il faut bien comprendre ces mouvements-là. Nous, on les appelle des tics fonctionnels. Donc, fonctionnel, ça veut dire, c'est plutôt psychologique, psychogène. C'est le reflet d'un mal-être psychologique. C'est tout à fait inconscient. Hein, c'est pas du tout de la simulation ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est vécu comme un tic. Mais voilà, la cause, à notre avis, c'est quand même plutôt une anxiété, on va dire, liée à la pandémie, à l'isolement social... la disruption des relations sociales. Et les réseaux sociaux, c'est un peu, on va dire, un conducteur. C'est quelque chose, c'est des phénomènes de mimétisme, en fait. On regarde ça et puis on développe des symptômes qui ressemblent.
Ça risque de passer, quand même.
Ça passe. On le sait parce que j'ai vu un certain nombre de ces patients. Et en fait, souvent, alors, simplement, il faut faire la différence avec un tic classique parce que, justement, là encore, le traitement et la prise en charge n'est pas le même. Vous n'avez pas donné les mêmes médicaments. Vous n'avez pas donné de médicaments tout court. En fait, l'approche, c'est plutôt la psychothérapie pour l'anxiété, la dépression, l'isolement social.
Et la personne qui va se laver les mains 50 fois par jour depuis le Covid, on peut parler de tic, là ?
Non, ça, c'est un TOC.
C'est un TOC, ouais.
C'est un TOC. Et ça aussi, c'est une confusion fréquente en langue française, on va dire. Tic et TOC, c'est pas la même chose.
C'est un bon nom, d'ailleurs, de réseau social.
Ouais.
C'est vous qui avez créé TikTok, dites-le.
Exactement, ouais, c'est, en fait, je gagne très bien ma vie maintenant, d'ailleurs. Je suis plus dépendant de mon salaire à PHP, mais oui, c'est assez ironique d'ailleurs que ça s'appelle TikTok, mais bon, sur TikTok, il y a beaucoup de choses qui se véhiculent, bien sûr, mais non, le TOC, c'est un trouble obsessionnel compulsif, et ce qui est important dans le TOC, c'est vraiment l'obsession qui n'est pas présente dans le tic. Quelqu'un qui fait un tic n'est pas obsédé par son tic, il le fait.
Ouais.
C'est compulsif, mais ce n'est pas obsessionnel.
Alors Marcus vous demande quelles dispositions prendre pour éviter les moqueries à l'école quand son enfant a des tics. Effectivement, ce n'est pas facile quand c'est des tics notamment vocaux. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors, moi, généralement, je recommande quand même d'être proactif et d'expliquer à la classe qu'un enfant a des tics. Parce que beaucoup de moqueries ne résultent pas tellement de la cruauté, on va dire, d'autres enfants. C'est de l'incompréhension. Pourquoi Absolument. Tu fais ça ? Pourquoi tu fais du bruit ? Pourquoi tu attires l'attention sur toi ? Une fois qu'on a expliqué qu'on a des tics, qu'on ne fait pas exprès, généralement, ça permet de réduire les conflits de façon très nette. Et il faut le dire à la classe, donc aux élèves, mais aussi aux enseignants. Parfois, ça vient des enseignants qui, voilà, qui punissent l'enfant alors qu'il n'y peut rien, bien sûr.
Voilà, merci beaucoup, docteur. Merci, Adèle, la maman de Luca. Merci à tous d'être venus nous voir dans la maison des maternelles. Et merci à vous. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast des maternelles. Je vous avais promis qu'on ne parlerait pas de l'élection présidentielle. Vous avez vu ? On a réussi. C'est bien, hein ? Allez, à demain, tout le monde.